Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec le micro, l'ordinateur et les papiers. Et je suis très heureux d'enchaîner juste après cette conférence que nous avons eue sur Catherine de Sienne, parce que j'y retrouve toujours des affinités avec Pier Giorgio, bon, deux Italiens, mais qui meurt jeune, on disait. Hein, Pier Giorgio est mort, lui, à 24 ans. Mais deux figures qui ont des affinités, on va le voir au long de ce parcours, et en même temps, Pier Giorgio dresse ou dessine une figure de sainteté étonnante, et qui, je crois, a apporté beaucoup de fruits depuis un siècle. Donc, je vous le disais, Pier Giorgio est né en 1901 et il est mort donc en 1925 à 24 ans. Il a été déclaré bienheureux par le pape Jean-Paul II en 90. Il y a maintenant plus de 25 ans. En guise d'introduction, j'aimerais commencer par trois petites citations de Pier Giorgio qui peut-être nous dressent un premier portrait de ce jeune saint contemporain. Ces citations viennent de lettres de Pier Giorgio. En fait, les deux manières dont on peut côtoyer Pier Giorgio aujourd'hui, c'est par ses lettres. Il écrivait énormément, beaucoup plus qu'on peut le faire aujourd'hui. Et puis par des fioretti, c'est-à-dire des centaines et des centaines de petites anecdotes sur sa vie, un peu à l'image de saint François d'Assise, et qui ont été recueillies dans plusieurs ouvrages, voilà, qui peut être voilà, l'engagement social et politique de Pier Giorgio, la charité de Pier Giorgio. On a comme ça des dizaines et des dizaines d'histoires sur cette vie de charité de ce jeune garçon. Je commence par une première lettre, un extrait. Dimanche fut une magnifique journée où du haut des glaciers, une pensée a couru vers les amis lointains. Je les aurais voulu tous là pour jouir avec moi de ce spectacle merveilleux. Jusqu'à l'âge où me voici, j'ai vécu trop matériellement. Il faut aujourd'hui que je retrempe mon esprit pour les luttes à venir, car dorénavant, chaque jour et chaque heure seront une bataille nouvelle à livrer et une nouvelle victoire à remporter. Il devrait se produire en moi un revirement spirituel le plus absolu. Tu me demandes si je suis joyeux ? Et comment ne pas l'être ? Tant que la foi m'en donnera la force, toujours joyeux, un catholique ne saurait manquer de gaieté. Le sport, la montagne, l'amitié, la simplicité, l'engagement politique et social, le service des plus pauvres, les études, tout cela porté par une foi vive malgré les combats, c'est un peu ainsi qu'on pourrait résumer la vie de Pier Giorgio. Une vie totalement donnée. Et ce que je vais vous raconter ne présente pas de trait spécialement extraordinaire, même si on pourrait dire que d'une certaine manière, Pier Giorgio est aussi, comme Catherine, un mystique. Mais c'est plutôt cette ligne d'une vie donnée et qui n'est pas gardée pour elle-même. On pourrait qualifier cela de gratuité des saints. Voici un rapide plan de l'exposé que je vous propose en trois parties qui peuvent apparaître a priori chronologiques mais qui en fait ne le sont pas tant que ça puisque toutes ces parties se recoupent dans la vie de Pier Giorgio. D'abord, une enfance sévère dans un milieu aisé, puis croissance cachée dans les joies et les combats, maturité révélée dans le don de soi. J'aimerais faire un premier excursus rapide sur la manière dont on peut aborder un jeune saint contemporain. Il y a plusieurs éléments spécifiques aux saints qui modifient un peu la manière dont on peut les appréhender par rapport à ceux des siècles passés. D'abord, peut-être une diminution d'une littérature plus hagiographique, c'est-à-dire qui ne garderait que certains éléments spécifique, édifiant de la vie des saints, parce que à cette littérature hagiographique, s'ajoute une abondance de données plus personnelles. On conserve souvent l'intégralité des lettres, des documents nombreux, et du coup, il y a une focalisation qui peut être positive ou non, mais sur une vision plus personnelle et psychologique. Aussi une dimension de croissance spirituelle qui apparaît, parfois de manière plus nette. On le voit chez la petite Thérèse. Et puis des preuves multiples, photos, témoignages, lieux, etc. Évidemment, on retrouve ça chez les saints du passé, mais souvent ces éléments ne nous sont pas parvenus. Et c'est la grande richesse, je trouve, de saints contemporains. À l'image de Sainte Thérèse, je disais, Sainte Bernadette, le bienheureux Père Lataste, Claire de Castelbajac. Le fait qu'il soit mort aussi dans sa jeunesse peut avoir tendance à augmenter les développements sur sa famille, une dimension un peu mélodramatique. Et c'est pas sur ça qu'il faudrait focaliser non plus notre attention. Et puis transparaît aussi la simplicité et la joie de Pier Giorgio. Et j'aimerais souligner cet aspect-là. Je crois que je vous présente aujourd'hui un saint qui n'a pu naître ainsi qu'après Vatican II. Je m'explique. Quand le procès de canonisation de Pier Giorgio va débuter, peu de temps après sa mort, il va y avoir plein d'éléments qui font qu'il ne rentre pas dans les cadres. Il ne correspond pas à ce que devrait être un saint. Il y a plein d'éléments qui sont un peu hors champ et on y reviendra. Et ce n'est que plus tard, après le concile, que son procès sera réouvert. Et s'il nous est présenté aujourd'hui, je crois aussi que c'est un des fruits du concile. Commençons donc par l'environnement. Pier Giorgio naît à Turin. Je vous dis, dans un milieu plutôt aisé. Son père, Alfredo Frassati, est le fondateur et le propriétaire de La Stampa, qui est un grand journal italien. Il sera plus tard sénateur, le plus jeune sénateur d'Italie, puis ambassadeur d'Italie à Berlin. Vous imaginez, dans cette période du début du XXe siècle, on parlait avec Catherine de période de guerre, on est aussi dans une période extrêmement tendue. Pier Giorgio va vivre la Première Guerre mondiale, et puis donc, toutes les années de Mussolini en Italie. Donc une période extrêmement complexe qui fait que son désir pour la paix, tout comme pour Catherine de Sienne, est extrêmement vif. Et c'est à travers la paix, cette notion de la paix sans doute, qu'il il fait passer cette vertu théologale de l'espérance. Sa mère Adélaïde est artiste peintre. Alors vous voyez ici donc Turin, cette ville au pied des Alpes. Et Turin est une ville en pleine transformation à cette époque. C'est une ville très importante d'Italie, extrêmement riche, mais aussi autour de laquelle se développent énormément de faubourgs avec une population beaucoup plus pauvre et de démunis. Évidemment les voitures de Turin, et puis en 1911, l'exposition universelle. Donc une ville qui rayonne à cette époque-là, mais qui en même temps est un lieu de pauvreté et de tension entre des familles plus aisées et les faubourgs de la ville. Voici un portrait donc du père et de la mère de Pier Giorgio. Pier Giorgio partage sa vie entre la ville de Turin et puis Polonais, la villa familiale qui est un peu plus haut dans les Alpes, à une soixantaine, un peu plus de enfin une petite heure de Turin. Vous pouvez voir ici donc la maison qu'habitera Pier Giorgio à la fin de sa vie à Turin. Vous voyez donc le milieu aisé dans lequel il pouvait évoluer. Et puis la villa de Polonais. Pourtant, malgré cette vie aisée, il y a une vraie dureté des relations familiales. On n'est pas du tout dans le cas des époux Martin avec la petite Thérèse. Une enfance très isolée. La sœur de Pier Giorgio, donc il a une seule sœur, Luciana, et sa sœur écrira, sa sœur sera poète plus tard et a une très belle écriture, et par d'ailleurs ses écrits, elle contribue à faire connaître la figure de Pier Giorgio. Elle écrira « Le balcon sans fleurs qui courait le long de la salle à manger et la cheminée sans feu semblait être l'emblème de notre famille. » Ils pouvaient se retrouver à table sans dire un mot. Et finalement, c'est Elena, la gouvernante, qui devint la confidente des enfants. Voilà Pier Giorgio avec sa sœur et puis ses parents, son père à cheval. Malgré tout, ils vont vivre une enfance heureuse. Je me permets de vous montrer quelques photos parce que, justement, on retient souvent quelques clichés rapide, donc là c'est Pier Giorgio à nouveau, c'est intéressant d'avoir les... Oui, c'est bien de le préciser peut-être. Voilà. Alors il faut savoir que la maman de Pier Giorgio l'appelait Dodo et l'habillait en fillette. Voilà. Et elle disait d'ailleurs souvent, on le voit dans ses lettres, hein, elle disait ma fillette. Voilà Pier Giorgio grandissant et se liant notamment d'amitié avec le jardinier de la propriété de Polonais. Polonais étant dans les montagnes, juste en dessous du sanctuaire marial d'Europa, qui est un grand sanctuaire d'Italie du Nord, fréquentait déjà assidûment ce lieu, et puis cet amour de la montagne qui ne le quittera plus. Adélaïde est souvent partie à droite à gauche, sa mère, peintre, je vous le disais, et... tendance à lui rappeler sans cesse qu'il doit travailler. Et je vous livre un extrait d'une de ses lettres qui montre la dureté de ces relations-là. Voilà ce qu'elle écrit à sa sœur. Il se grattait, c'est Pier Giorgio qui est en train d'essayer d'écrire quand il est encore jeune. Il se grattait, il ne savait pas, il ne pouvait pas écrire une seule ligne. Je n'en puis plus, parfois je pense à un manque d'intelligence. Et qui plus est, il n'est plus aussi gentil qu'avant. Mon Dieu, je souhaite seulement mourir avant de voir l'échec de ce garçon. Plus tard, elle dira, tu sais, parler avec Pier Giorgio, c'est un peu comme parler avec du vent. Alfredo est aussi dur avec son fils, exigeant, il aimerait qu'il reprenne le journal de la Stampa, cet empire familial qu'il a bâti. La meilleure preuve d'affection que l'on peut me donner est le courage au travail et le sérieux dans la vie. Et son père le reprend durement, alors qu'il doit redoubler en classe. Pier Giorgio n'est pas spécialement un bon élève. Hein. Donc, jusqu'à 10 ans, ils sont élevés à Polonais, ils ont une instruction à domicile. Et puis, à l'école, il a du mal. Sa sœur passera devant lui et il galère plutôt. Comme quoi la sainteté n'est pas toujours liée à l'excellence. Et d'ailleurs, rarement même. Il faut que tu te persuades, voilà ce qu'il écrit à Pier Giorgio. Il faut que tu te persuades, cher Giorgio, que la vie doit être prise au sérieux et la manière dont tu agis ne convient ni à toi, ni aux tiens qui t'aiment et sont très déçus par ces choses qui se produisent trop souvent et se répètent, monotones et douloureuses. J'ai peu d'espoir que tu changes. Et pourtant, il serait extrêmement nécessaire de changer maintenant. Ne pas vivre au jour le jour, sans penser à rien, comme n'importe quel écervelé. Tension et opposition dans la vie familiale. Mari et femme, dira le premier biographe de Pier Giorgio, mari et femme étaient restés ensemble unis seulement par le souci d'élever la famille. Je dois dire cela, même si c'est douloureux, parce que je suis convaincu que c'est dans cette séparation familiale que se trouve la clé de certains comportements ultérieurs de Pier Giorgio. La clé, c'est peut-être que cette famille-là n'est pas la seule famille qui nous soit donnée et que notre vie chrétienne nous engage à une famille plus large. On le voyait avec aussi Catherine, hein, la familia qui n'est pas la famille de sang, d'abord. La lutte sourde d'Adélaïde pendant des années et des années avec le sénateur, le manque de la moindre trace de lumière et d'amour, finit naturellement par dessécher le cœur de l'un et de l'autre. Je compris qu'il y avait une grave rupture et que c'est seulement à cause des enfants, par scrupule religieux, pour des raisons mondaines, que la faille ne s'était pas transformée en séparation totale. La famille est complexe, et en même temps, Pierre Giorgio aussi avait ses défauts. Voilà ce qu'écrit le Salésien, donc premier biographe de Pierre Giorgio. Il avait ses défauts, Pierre Giorgio, pas graves en eux-mêmes, mais graves comme indice. Un tempérament impulsif, un entêtement vraiment biellois. Biellois, c'est la petite ville à côté, Bielle, donc la ville à côté de Polonnais. Et là, on retrouve peut-être une caractéristique de notre Catherine. Peu de soucis du bon usage du temps et peu de goût pour l'ordre. Ce n'était pas un modèle naturel de vertu infuse. Et toute sa vie, il va travailler ces vertus-là, chrétiennes, et à travers notamment cette volonté qu'il doit éduquer sans cesse. Et il se plaint souvent dans ses lettres d'avoir une volonté trop habituée à céder. Finalement, la famille dont on pourrait rêver qu'elle soit le lieu le plus fécond de l'amour ne l'est pas toujours. Mais finalement, Dieu a un autre projet. On le voit dans la Bible aussi, les familles sont multiples, rapiécées, décousues, plus ou moins étendues, qu'importe. Le Seigneur ne veut pas une famille qui soit close sur elle-même, impeccable et sans accroc. Il y a finalement la famille d'où l'on vient, comme elle est, puis celle vers laquelle on est appelé. Et je crois que c'est vrai qu'on appartient à une famille plus large, plus ouverte, le peuple de Dieu. Cette famille aux multiples visages, avec combien de malades, de pauvres et de souffrants. Et c'est ça dont Pierre Giorgio va faire l'expérience. Voilà, je vous mettais quelques phrases de sa mère, qu'on peut entendre ici et là, mais qui nous redit à quel point aussi il nous est contemporain. Je me suis rasé ce matin. Par chance. Donc beau jeune homme aussi que ce Pierre Giorgio. Croissance cachée dans les joies et les combats. J'aimerais maintenant vous brosser rapidement cette vie sociale de Pierre Giorgio qui passe par différents aspects, à commencer par la montagne, le sport. Est-ce que vous m'entendez bien ça? Je suis peut-être un peu près du micro. Je pourrais presque le poser. Non, ça ne va pas marcher. Je reste. Donc Pierre Giorgio partage son temps entre Turin et la villa familiale donc de Polonnais, je vous le disais, au pied des Alpes. Et cet amour pour les sommets qu'il découvre jeune ne va jamais se démentir. Elle ne va faire que grandir, marcher, escalader, ouvrir de nouvelles voies le long des parois encore inaccessibles. Voilà qui le fait rêver. Et au sommet, souvent, il chante à tue-tête. On nous dit qu'il chantait particulièrement faux, Pierre Giorgio. Au point qu'il se planquait dans le confessionnal de l'église pour chanter, nous rappelle Vanda. Vanda est la nièce de Pierre Giorgio qui vit encore. Elle rappelait cette anecdote il y a quelques temps. Il se mettait dans le confessionnal, mais on l'entendait tout de même chanter faux. Au point que ses amis, d'ailleurs, lui bourraient la bouche de bonbons pour essayer d'éviter le mal. Quelques images de ce Pierre Giorgio avec ses dossards. Pierre Giorgio, en fait, était un alpiniste de fait d'assez bon niveau, voire de très haut niveau, à une époque où l'alpinisme est en train de se développer, où en Europe, c'est la compétition permanente pour ouvrir de nouvelles voies, découvrir des sommets, une manière, quelque part, de pallier aux échecs des guerres qui traversent l'Europe. Mais malgré ça, malgré cette disposition particulièrement... Donc, cette disposition physique particulièrement solide, Pierre Giorgio va toujours préférer partir en montagne avec ses amis plutôt que de se laisser gagner par une compétition stérile. Le voilà au-dessus. Et puis en montagne, donc le lieu de la célébration, des prières. Vous le voyez
tout en haut.
Tout en haut. Premier de cordée. Et je crois que ces notions de premier de cordée, de celui qui ouvre des voies, etc., qui auront tellement de succès dans les mouvements de jeunes à partir des années 20, 30, 40 et après, viennent aussi de cette belle figure de Pierre Giorgio. en même temps que le scoutisme se développe, en même temps, il y a toute cette dimension des bienfaits du sport et d'une vie accomplie. Pierre Giorgio dira: voyez quelle importance cela peut avoir d'être en bonne santé. Notre santé doit être mise au service de ceux qui n'en ont pas, car autrement ce serait trahir le don même de Dieu et sa providence. Il y a quelque chose d'assez nouveau là. L'aspect de santé physique n'était pas toujours bien vu, j'allais dire. Les saints chrétiens peuvent avoir tendance parfois à avoir usé, j'allais dire, jusqu'à la corde leur santé. Pierre Giorgio le fait, mais en percevant à quel point le corps peut être aussi le lieu où notre Dieu qui s'est incarné se rend présent. Et puis je vous montre la célèbre photo donc, de Pierre Giorgio. Typiquement une photo qui, dans les années 30, avait été retouchée, puisqu'on avait gommé judicieusement la pipe que Pierre Giorgio pouvait avoir donc, à la bouche. Un saint qui fume, ça ne présentait pas très bien. On a nombre d'histoires où Pierre Giorgio se laisse prendre son manteau par un ami qui en a davantage besoin, sans même lui dire. Voilà ce qu'un ami lui dit: j'endossais la cape qu'il m'avait immédiatement prêtée lorsqu'il sut que je n'en avais pas et sans laquelle je n'aurais pu participer à la randonnée. J'avais accepté en croyant qu'il en avait une autre, mais lui s'en priva simplement. Il dira plus tard: comme tu le vois, je n'ai pas froid. Et c'est très typique de Pierre Giorgio. Au sommet, c'est l'occasion de contempler le Créateur, de contempler le Créateur dans sa création. J'ai laissé mon cœur, écrit-il, sur ces monts, avec l'espérance de le retrouver cet été en faisant l'ascension du Mont Blanc. Mars 1923, il a 22 ans. Finalement, pour lui, la montagne est le lieu où se forme la connaissance de soi et où se fonde l'amitié, mais aussi où la foi s'établit sur le roc. Se rencontrer soi-même, rencontrer un ami, découvrir Dieu. À la fin de sa vie, quelques jours avant de mourir, il marquera au dos de la dernière photo qu'on a de lui: Verso l'alto, vers les sommets. Cette photo qui le montre escaladant la montagne, et que nous verrons à la fin de cet exposé, est finalement aussi tout un programme. Depuis les glaciers, mes pensées ont couru jusqu'aux amis lointains. J'aurais voulu qu'ils soient tous là, à jouir comme moi de ce spectacle merveilleux. Vous voyez une phrase similaire à ce que je vous ai lu: j'ai laissé mon âme au milieu des neiges immaculées et j'espère la retrouver telle qu'elle l'année prochaine. À côté de cette vie-là, il y a les études. Alors je me suis amusé à vous faire un petit plan de Turin. Vous pouvez voir en bas les numéros 1, 2, 3, 4. C'est le lieu où a habité Pierre Giorgio. Il s'est un petit peu déplacé, mais toujours dans un quartier relativement proche. Et puis, ici, vous avez l'université, enfin l'école polytechnique plus exactement, où il va entrer comme étudiant pour être ingénieur des mines. Alors, vous voyez, je vous dis que Pierre Giorgio galère dans les études, c'est relatif. D'ailleurs, c'est plutôt un garçon cultivé, hein, qui aime énormément lire, qui écrit beaucoup. Sa vie d'étudiant pourrait être celle de n'importe quel autre. Banal donc. Et pourtant, depuis ses 17 ans, il est inscrit aux conférences Saint-Vincent de Paul et visite régulièrement les exclus. Le rendez-vous est fixé à 18h au pied du campanile de l'église de la Consolata. L'église de la Consolata, c'est le numéro 10, voilà, que vous avez au-dessus. Et puis, le Cotolengo est tout au nord, l'hôpital où il va visiter les exclus. On est juste à côté, en fait, aussi d'un autre lieu célèbre, hein, celui de Don Bosco. Turin a une tradition de saints. Une sainteté sociale, on pourrait dire, enfin de saints qui ont un investissement très réel auprès des plus pauvres. Il va donc de là, par la Via Santa Chiara, soigner les malades du Cotolengo, c'est ce que je vous le disais, le nom de l'hôpital où il se rend fréquemment aussi pour visiter les vieillards. Dès cette époque, il impressionne par sa gaieté, sa pureté, son humilité, sa simplicité et sa foi. Il est cité en exemple et provoque l'étonnement et l'admiration de beaucoup. C'est son attitude déterminée et courageuse qui frappe. Et en même temps, Pier Giorgio ne dit mot de ce qu'il fait. C'est quelque chose d'étonnant chez lui. Il est extrêmement humble de ce point de vue-là. Il sert, il est à l'aise avec chacun, quelle que soit sa condition, mais n'en dit mot. Son humilité aurait pu rendre sa vie étriquée, et au contraire, je crois qu'elle la déploie largement et la rend contagieuse. Il a aussi un grand détachement par rapport au monde dans lequel il évolue. C'est d'un côté l'unique héritier d'un grand empire familial qui, à Berlin, puisqu'il va habiter aussi à Berlin, devra faire le tour des dîners mondains dont il s'échappe dès qu'il peut. Et en même temps, à l'âge où l'on admet tacitement dans les familles bourgeoises que les garçons abandonnent la pratique religieuse, lui fait preuve d'une grande religiosité. Il finira même, donc, dès l'âge de 15 ans, il me semble, à communier tous les jours. Ce qui est très étonnant à l'époque. Inquiétude donc de ses parents, de sa mère notamment. Son père n'est pas croyant. Il est agnostique. Et sa mère s'inquiète beaucoup qu'il puisse devenir prêtre. Et quand on lui demande « tuer un bigot », on pourrait dire une grenouille de bénitier, il répond lui « non, je suis resté chrétien ». Belle réponse à rendre le jour où cette question peut nous être posée. Voilà ce qu'il écrira « Je veux être dans les mines, aider mon peuple, et ceci, je peux mieux le faire comme laïc que comme prêtre, car les prêtres ne sont pas au contact du peuple ». Dans l'Italie de l'époque, c'est notamment à Berlin qu'il fait cette expérience aussi des plus pauvres, et notamment que les prêtres peuvent être au contact des plus pauvres, et il imagine toujours que s'il était en Allemagne, il aurait pu songer à être prêtre, mais que c'est impossible dans l'Italie où il est. Et quand on demande à sa mère, voilà ce qu'elle répond, que Pier Giorgio devienne prêtre, je préférerais plutôt qu'il ait son diplôme et qu'il meure ensuite. Ça revient souvent hein, chez sa mère, cette idée-là. Et de fait, chez Pier Giorgio aussi, hein, la mort sera souvent présente dans ses écrits, notamment à cause de la montagne et des risques qu'elle fait encourir. Hein. La montagne est un lieu dangereux et il voit des amis mourir en montagne. Voilà l'école polytechnique de Turin, dans un lieu magnifique hein, qu'on peut toujours voir aujourd'hui. Et puis le journal de la Stampa. Vous voyez aussi Pier Giorgio et son père. Pier Giorgio fait partie d'un nombre totalement incroyable de mouvements. La Compagnie du Saint-Sacrement, les conférences Saint-Vincent de Paul, l'Action catholique, l'Apostolat de la prière, l'Association des jeunes adorateurs étudiants, la Fédération universitaire, le Cercle Cesare Balbo, Pax Romana, international de l'Église donc, etc. On a l'impression qu'il cherche à rencontrer Dieu partout où il pense pouvoir le trouver. Et il cherche aussi cette pluralité, mais finalement qui est dans cet unique credo, hein, qui est d'être à tous, quelle que soit sa condition. Je vous lis quelques lettres de Pier Giorgio. Cher Tonio, je t'écris au crayon parce que j'ai devant moi deux stylos qui sont vides. Ce côté un petit peu désordonné et pas très bosseur de Pier Giorgio, a priori. Je suis venu à Turin avec l'intention de travailler d'arrache-pied et d'étudier sérieusement, sinon je ne viendrai jamais à bout de cet examen qui, à force de traîner, devient ennuyeux. Mais pour passer du projet à l'acte, il faut une volonté de faire, et je ne l'ai malheureusement pas. Au contraire, ma volonté est plutôt habituée à céder. Aussi ai-je besoin de prière, car c'est par elle, et par elle seulement, que je pourrai obtenir de Dieu la grâce de renforcer ma volonté, et celle de pouvoir ainsi mener à bon port ma barque, sur le point de couler à pic, dans les bourrasques de ces dernières journées de ma vie étudiante. Père Giorgio donc, se confie toujours à ses amis et au détour de phrases peut-être anodines, vient demander la prière, le soutien, dans les études notamment. Cette année, je n'aboutis à rien. Parfois, tout en étudiant, je me demande si je continuerai de suivre la voie droite, si j'aurai la chance de persévérer jusqu'au bout. Et on voit qu'il vise bien plus loin que le simple examen qu'il a en vue. Je voudrais m'acheminer dans la voie droite, mais je bute à chaque pas et je tombe. Aussi, je t'exhorte à prier pour moi tant que tu peux, afin que j'arrive, le jour où la divine providence le voudra, au bout de ce chemin, non sans fatigue, mais avec droiture. En attendant, ces jours-ci, je fais alterner d'arides études avec la merveilleuse lecture de saint Augustin. Mon esprit n'a jamais éprouvé jusqu'à ce jour d'aussi forte manière une jouissance qui n'a pas de fin. C'est à travers ces magistrales confessions que l'on ressent un peu de la joie qui sera réservée à ceux qui mourront sous le signe de la croix. Aujourd'hui, je déplore amèrement d'avoir souvent perdu mon temps et d'avoir attendu d'être à un âge si avancé, il a 23 ans, pour goûter une joie si pure. Il y a quelque chose de paulinien chez Pierre Giorgio, dans ses lettres, dans sa manière aussi d'envisager la charité. Son désir de se former, Pierre Giorgio le puise aussi dans le dialogue de Catherine de Sienne. Voilà, à Catherine, qui cherche en aimant à suivre la vérité et à s'en revêtir, le Seigneur dit « Ouvre l'œil de l'intelligence et regarde en moi, et tu verras la dignité et la beauté de ma créature douée de raison. » On retrouve en fait cette même idée chez Pierre Giorgio, de se laisser former par la lecture, d'ouvrir l'œil de son intelligence et de regarder dans les études jusque dans le Seigneur. Pierre Giorgio lui fréquente donc Catherine, il lit des extraits assez tôt et puis c'est ce livre-là qu'on retrouvera sur sa table de chevet, donc le dialogue après sa mort, et puis aussi saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Son action ne se limite pas aux bonnes œuvres, mais elle se poursuit dans son engagement politique. Alors Pierre Giorgio prend part aux réunions des syndicats catholiques, rencontre les ouvriers, et il n'est pas rare de le voir à l'entrée des usines pendant les grèves, défendant les employés contre la pression des ligues communistes. Il va s'inscrire au Parti populaire italien, malgré la désapprobation de son père, qui n'est pas dans le même parti. Et Pierre Giorgio l'a fait un acte assez fort, parce qu'on est encore à une époque où l'Église en Italie, donc la République est extrêmement mal vue, on n'est pas sorti encore des problèmes autour des États pontificaux. On aurait l'impression d'être presque à l'époque de Catherine, d'ailleurs, quand je dis ça. La question vaticane n'est pas encore réglée. Et lui décide de s'inscrire comme chrétien dans ce parti populaire italien qui est le jeune parti chrétien qui se met en place à cette époque-là. Avec le fascisme qui s'installe en octobre 1922, Pierre Giorgio persévère dans ses prises de position de catholique militant. Bien que la participation aux processions religieuses lui vaille beaucoup de moqueries, il n'hésite pas à se mêler au cortège, ce qui lui vaudra quelques heures d'ailleurs de garde à vue. Et il comprend le danger du fascisme. Lorsque des membres du Parti populaire entrent au gouvernement de Mussolini. Et pour lui, il en sera extrêmement affecté. Quelques lettres encore de Pierre Giorgio. « Mes amis, vous n'avez pas besoin d'entendre rabâcher pauvrement des choses déjà tant de fois entendues. Cependant, la gravité de la question est telle que je ne crois pas inutile de répéter ces choses si anciennes. Chacun de vous sait que la base fondamentale de notre foi est la charité, sans laquelle notre religion tout entière s'effondrerait. La foi catholique est fondée sur le véritable amour, et non, comme le voudraient tant d'autres, pour tranquilliser leur conscience, sur la violence qu'ils prennent pour fondement de la religion du Christ. La violence sème la haine, et l'on récolte ainsi les fruits néfastes de ces semailles. Mais avec la charité, on sème la paix chez les hommes, non point la paix du monde, mais la vraie paix, que seule la foi en Jésus-Christ peut nous donner en nous rendant fraternels les uns aux autres. Alors, contre toute violence, Pierre Giorgio n'en est pas moins décidé à combattre, et même à mourir pour le Christ. Je vous rappelle une petite anecdote qui lui arrive, la femme de chambre, Nathalie Lina, qui est à Turin avec lui, perd son frère pendant la guerre. Et Pierre Giorgio lui pose cette question: « Tu ne donnerais pas ta vie pour faire cesser la guerre ?» Elle répond: « Moi certainement pas, dit-elle. Je suis jeune et ma vie vaut bien celle des soldats. » Pierre Giorgio répondra: « Eh bien moi, je serai prêt à donner ma vie, et aujourd'hui même. » Alors, la question politique, ce sera aussi pour lui le lieu de découragement et de peine. Je vous en ai parlé avec le Parti populaire qui finalement s'inscrit quelque part dans le nouveau gouvernement de Mussolini. Et puis, il va y avoir cette célèbre attaque des fascistes. Je vous en livre quelques phrases. De cette attaque, on en parlera jusque dans le Times, et puis à la Stampa, évidemment, et ce sera peut-être l'une des rares fois où le père de Pierre Giorgio sera fier de son fils. Voilà ce qu'il écrit à un ami: « Cher Tonio, je t'écris pour te tranquilliser. Tu liras sur les journaux que nous avons subi hier une petite dévastation dans l'appartement par ces cochons de fascistes. Ce fut une entreprise de lâches, mais rien de plus. Nous étions tranquillement à table, il était 1h moins le quart, lorsque nous avons entendu sonner à la porte. Notre femme de chambre a couru voir et a vu par la fenêtre un jeune homme plutôt bien habillé. Alors, croyant que c'était un de mes amis, elle a entrouvert la porte. Il a subtilement demandé « Le communiste, Frassati ?» À sa réponse négative, il a enfoncé la porte en criant « En avant !» et il est entré dans la maison avec 5 autres types. Nous mangeons tranquillement lorsque je l'ai entendu hurler. Sur le coup, j'ai pensé à des voleurs, mais à peine arrivé dans l'entrée, j'en ai vu un en train d'arracher le téléphone. J'ai pensé immédiatement à des fascistes, et alors le sang s'est mis à bouillir dans mes veines. Je me suis précipité sur cette crapule au cri de voyou lâche et assassin, et je lui ai flanqué un coup de poing. Courageusement, dès que les autres escrocs ont entendu la voix d'un homme, ils ont pris la porte et fui précipitamment dans la rue. » Vous voyez, quand je vous disais que Pierre Giorgio n'entrait pas tout à fait dans toutes les cases de la sainteté telle qu'on pouvait l'envisager, lorsque justement on imagine la sainteté comme une série de cases à cocher, mais Pierre Giorgio nous présente une sainteté qui est bien plus le fait d'être chaque jour plus authentiquement soi-même, et soi-même parce que sous le regard de Dieu, donc créé à l'image de Dieu. Pierre Giorgio. Et puis je vais vous parler un petit peu de l'amitié de Pierre Giorgio, en essayant de ne pas trop m'étendre. Les amis, pour Pierre Giorgio, sont quelque chose d'extrêmement important, et l'amitié n'est pas quelque chose de secondaire. Il construit des amitiés durables, il les entretient, il cherche ceux avec qui il va pouvoir créer ces liens durables. Et Pierre Giorgio, j'allais dire, leur parle, mais aussi les captive par sa simplicité, sa spontanéité, sa sympathie, sa franchise. Il est sans masque ni hypocrisie, d'une certaine manière. Et il va fonder, avec un groupe d'amis, la compagnie des types louches. Vous voyez que, encore un petit clin d'œil avec Catherine de Sienne, hein, on avait la Familia, et puis quel était l'autre nom ?
La belle brigade.
Ici, on a la compagnie des types louches, qui est fondée le 18 mai 1924, suite à une sortie mémorable entre amis. Compagnie, dira-t-il, au capital tellement déposé qu'elle n'en a plus. Ça commence mal. Mais Pierre Giorgio répondra, enfin ajoute, « L'avenir est dans les mains de Dieu et rien ne pourrait aller mieux. » Les types louches, c'est un groupe d'amis qui partent en montagne, qui organisent des expéditions, prient et s'envoient des lettres, j'allais dire volontairement pompeuses, qui se termine par d'étonnantes salutations. Avant de vous livrer l'une ou l'autre des salutations, je vous donne une clé de lecture. Avec son meilleur ami Marco Beltramo, ils vont un soir voir une pièce de théâtre dont je ne suis même pas sûr de me rappeler le titre, hein, Il Conte di Brescia, je crois, qui n'a peut-être pas beaucoup été donné depuis. Simplement, dans cette pièce de théâtre qui est brossée autour de la Révolution française, les deux jeunes gens voient cette pièce et sortent, et puis Pierre Giorgio dira à Marco, dis donc, toi tu es comme Perrault, qui était un des personnages de la pièce. Et Marco va répondre à Pierre Giorgio, eh bien alors toi tu es Robespierre. À partir de ce moment-là, Pierre Giorgio aura ce surnom-là. On avait la sotte, la folle, la grosse tout à l'heure. On a un autre univers avec Pierre Giorgio, mais qu'il faut bien prendre donc, dans cette thématique hein, d'un humour sain, parce qu'il est aussi placé et éclairé par le regard de Dieu, voilà. Et ici de Robespierre. Alors on a à la fin de ses lettres, assez souvent, des salutations étonnantes du type « Le citoyen Robespierre t'envoie ses terroristes coups de canon, boum boum. » Suivi d'un « Vive le Christ, vive le Pape » ou d'un « Je te garde dans mes prières ». Des amis, oui, on pourrait dire des types louches quelque peu révolutionnaires. Et en même temps, j'allais dire, pour Pierre Giorgio, mieux vaut être une terreur pour rire qu'un saint pour de faux. Tu me demandes si je suis joyeux, et comment ne pourrais-je pas l'être, tant que la foi m'en donnera la force, toujours joyeux. Tout catholique ne peut pas ne pas être joyeux. La voie pour laquelle nous sommes créés, même semée de beaucoup d'épines, n'est pas une voie triste, une triste voie. Elle est joie, même à travers les douleurs. Une lettre à Marco Beltramo. Cher ami, il y a maintenant 2 jours que j'ai quitté la Villa Santa Croce et j'ai beaucoup songé à toi. Ton esprit était présent entre ces murs où nous avons passé de si beaux jours ensemble. Dans la vie d'ici-bas, après l'affection pour les frères, les parents et les sœurs, une des plus belles est l'amitié. Je devrais toujours, tous les jours, remercier Dieu de m'avoir donné des amis si bons. Et des amis, IE, qui constituent pour moi une garde précieuse pour toute ma vie. Je t'adresse mes meilleurs vœux, ou même un seul, mais je crois que c'est le seul qu'un véritable ami puisse faire à l'ami qui lui est cher. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi, car si tu possèdes chaque jour la paix, alors tu seras vraiment riche. Salutations cordiales en Jésus-Christ. Cette amitié qui traverse les montagnes et les frontières, une autre lettre, je suis retourné en pensée à ces joyeuses journées passées ensemble durant nos excursions en montagne, mon seul réconfort au cours de ces réflexions mi-joyeuses, mi-tristes. C'est la certitude qu'un lien unique, un lien qui ne connaît pas la distance, nous unit, et je l'espère avec la grâce de Dieu nous unira toujours. C'est la foi, idéale que nous partageons et que tu pourras, toi, soutenir dans ta carrière avec les moyens que la vie militaire mettra à ta portée. Il écrit à un ami qui s'en va pour une carrière militaire, et que moi, avec l'aide de Dieu, je tâcherai de défendre et de soutenir dans ma future vie d'homme. Voilà ce qu'on dira de lui aussi, quand on parle de Pierre Giorgio, on dit, lui, finalement, quand il s'agissait de sourire, il riait, de toucher quelqu'un, il lui donnait un coup de poing. Mais quand, dans une église, il faisait son ample signe de croix, sa génuflexion complète, il ne restait plus qu'à prier le Seigneur de nous offrir la grâce de l'imiter. Ne le surnommait-on pas Fracassati ? Le chef du Parti Socialiste, d'ailleurs donc parti aussi opposé au Parti Populaire Italien, dira plus tard, après la mort de Pierre Giorgio, cette phrase qui est belle, il agissait comme il croyait, il parlait comme il sentait, il faisait comme il disait. Et un ami qui l'interroge en lui demandant « Mais ne crois-tu pas qu'il y a un brin de fantaisie dans l'idéal de vie que tu t'imposes ?» Pier Giorgio répond simplement avec une bourrade dans le dos, accompagnée d'un « bien sûr » qui en dit long. Le voilà tirant une charrette, et puis avec son ami Marco Beltramo. Et puis c'est une photo sans doute de cette soirée mémorable, je ne sais pas si c'est celle-là exactement, de Pier Giorgio avec le chapeau sur la tête. Les types louches en excursion, Pier Giorgio est au centre. Voilà, les voilà en pique-nique dans la montagne. Je vous ai lu déjà ces passages-là, j'y reviens pas. Mais il y a un véritable aussi combat spirituel pour Pier Giorgio, notamment lorsqu'il tombe amoureux d'une des filles du groupe, Laura Hidalgo. Et il se rend compte assez vite qu'en fait elle ne sera jamais acceptée par sa famille. Il n'ose finalement même pas en parler à ses parents, qui sont d'ailleurs au bord de la séparation. Et à une période où sa sœur, Luciana, vient de se marier, et va partir, donc elle se marie avec un Polonais, ambassadeur aux Pays-Bas. Voilà ce qu'écrit sa sœur quand Pier Giorgio vient lui parler de cet amour. « Hier soir, Pier Giorgio est venu me voir avec ses grands yeux noirs et il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'une demoiselle que je connais. Bien entendu, je n'ai rien dit à maman. Ce serait le coup de grâce. Pauvre garçon. » C'était émouvant de l'entendre parler avec cette ligne de conduite qui ne se discute pas. Je lui ai dit d'essayer de ne plus la voir. Une période donc aussi difficile et qui se voit dans ses lettres. Maturité révélée dans le don de soi. Le service des plus pauvres, en fait, c'est l'élément absolument central de la vie de Pier Giorgio et dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. On peut l'approfondir très longuement, je voudrais simplement vous donner quelques éléments. J'allais dire, selon les principes de la bonne société italienne, Pier Giorgio a appris à faire la charité depuis qu'il est petit. Mais il découvre que cette charité est autre et ne consiste pas simplement à quelques actes de bonne action de ci, de là. Elle est le fait de découvrir le Christ derrière le plus faible, derrière un frère. Et cette charité non plus ne s'embarrasse pas de savoir si elle est trompée ou non. Elle est donc gratuite et sans retour. Et Pier Giorgio est très ferme sur ce principe-là de dire « je donne, quoi qu'il en coûte, quoi que ce soit le retour que j'en reçoive ». Nous devons aller vers ceux qui souffrent et chercher à les soulager, car la religion catholique est fondée sur la charité qui n'est autre que le plus parfait amour. L'apôtre saint Paul dit « La charité du Christ nous presse », et sans ce feu qui, peu à peu, doit détruire notre individualisme, afin de nous faire vibrer seulement aux souffrances des autres, nous ne serions pas chrétiens. N'oublions jamais que si la maison est sordide, c'est vers le Christ que nous allons. Autour des malades, autour des malheureux, je vois une lumière particulière, une lumière que nous n'avons pas, nous. Il est donc quelque part aussi frère universel. Il ne cherche pas à aller vers les meilleurs, mais se tourne vers ceux qui ont besoin de lui. Alors on le voit dans les faubourgs de Turin, tirer des charrettes, on a des centaines d'anecdotes, hein, visitant les plus pauvres, essayant de trouver du matériel pour un jeune enfant qui vient de naître. Et quand ses amis témoignent, quand il se rend chez quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il va par exemple simplement demander à une jeune mère de combien de lait a besoin un jeune garçon, un enfant, Et contrairement aux autres, il ne va pas simplement dire « je vous emporterai », mais il le fait par contre, réellement, la fois suivante. Une action donc extrêmement concrète. Il aime à dire d'ailleurs que le vrai bien doit être fait comme par inadvertance, peu à peu, quotidiennement, familièrement. Toujours ce combat intérieur pour Pierre Giorgio, hein. Moi qui ai reçu de Dieu tant de choses, je suis resté si négligent, si méchant. Et eux, qui n'ont pas été privilégiés comme moi, sont de ce fait infiniment meilleurs que moi. On retrouve hein, ce que disait son premier biographe. Vous voyez, dans cette Pierre Giorgio a une vive capacité à présenter ses faiblesses dans ses lettres, etc., et à se reconnaître aussi comme pécheur, sans doute aussi parce que l'environnement familial a été complexe et dur. Il n'hésite pas à faire transparaître cela. On retrouve au-dessus de l'hôpital du Cotolengo cette citation justement de Saint Paul. À une femme d'ailleurs lors d'une réception un peu mondaine qui vient le voir en lui disant « Oh Frassati, vous pourriez changer de chapeau », sans doute parce qu'il avait un chapeau pas très élégant, il lui répond « Mademoiselle, si vous aviez été avec moi dans le taudis où j'étais il y a un moment, vous comprendriez que ce n'est pas la peine de changer de chapeau. Avec l'argent que cela représente, on pourrait faire du bien. » Prière et Eucharistie sont aussi des éléments qui façonnent toute sa vie. Alors voilà, vous voyez de nouveau la carte, donc le Cotolengo tout en haut, où il se rend régulièrement. Et puis ce portrait fameux de Pierre Giorgio, où il est nettement plus jeune. Je vous lis encore une lettre à propos de la prière et de l'Eucharistie. « Ma foi qui m'a été donnée au baptême, d'une voix sûre me suggère, par toi-même tu ne feras rien, mais si tu prends Dieu pour centre de toutes tes actions, alors tu arriveras au but. Et c'est là précisément ce que je voudrais pouvoir faire en prenant pour devise le mot de saint Augustin, « Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » À la fin de sa vie, hein, les derniers mois, il lit énormément saint Augustin pendant surtout l'hiver 24-25. Je vous exhorte de tout mon cœur à vous approcher le plus souvent possible de la sainte table. Nourrissez-vous de ce pain des anges et vous en retirerez la force nécessaire pour lutter contre les passions et triompher de toutes les adversités. Un petit mot simplement sur son engagement dominicain. Il s'engage donc en 1921, je crois. Attendez, je retrouve la date. En 22, pardon. Le 28 mai 1922, à 21 ans, Pierre Giorgio devient un laïc dominicain dans l'église Saint-Dominique de Turin. Les dominicains, il les a rencontrés notamment à travers la figure du père Roberto... non, Filippo Roberti. Et avec lui, en fait, il part dans les faubourgs de Turin pour visiter les pauvres dans des lieux plutôt un peu malfamés. Et c'est comme ça qu'il va fréquenter l'ordre. Vous voyez ici ça, donc sa carte donc de laïc dominicain. Et puis, voilà l'arrière de la carte avec l'église, donc l'église Saint-Dominique, hein, qu'on peut évidemment toujours voir aujourd'hui. Il aime aussi énormément Dante et il utilisera les mots de Dante pour parler de Saint-Dominique dans ses lettres, notamment pour parler de l'ordre dominicain, il dira « L'ordre de Saint-Dominique, c'est finalement le lieu où soit l'on s'engraisse ou bien on se perd. » Attendez que je retrouve exactement la phrase. Voilà, c'est. Je fus l'un des agneaux du Saint-Troupeau de Dominique, du Saint-Troupeau que Dominique mène sur un chemin où l'on s'engraisse, à moins qu'on déraisonne. Pourquoi on s'engraisse? Parce qu'on s'engraisse évidemment dans les verts pâturages du Christ, on s'engraisse de vertu. non pas donc tellement en taille corporelle que dans notre foi, à moins justement qu'on s'en échappe et qu'on déraisonne. Vous voyez la chapelle aussi où Pierre Georgiou donc a fait son engagement comme laïc dominicain, et où peut-être un jour son tombeau sera, moi je formule le vœu que ce soit le cas, pour l'instant il est enterré donc dans la cathédrale de Turin, juste à côté du sanctuaire. Je mourrai jeune. Pierre Giorgio va partir très vite, en une petite semaine. Il contracte une poliomyélite foudroyante. Et en quelques jours, il s'éteint. Et à l'insu un peu de sa famille. De la même manière que sa vie de charité a été cachée auprès de ses proches, vous voyez encore comment sa sœur le prenait de haut quand je vous lisais à propos de son amour pour Laura, quand elle lui dit « pauvre garçon ». Sa jeune sœur, qui a un an de moins que lui, considère vraiment que bon, Pierre Giorgio est un petit peu à côté. Et il part très vite. En fait, sa grand-mère est en train de mourir à ce moment-là. Et toute la famille a les yeux rivés sur cette dame qui part, et qui meurt le jeudi, alors que lui, depuis le lundi, souffre donc du dos. Et cette souffrance va progressivement se transformé en paralysie totale. Il ne peut pas accompagner sa grand-mère donc, pour l'enterrement. La famille se rend à l'enterrement et quand elle revient, on s'aperçoit, stupeur, qu'en fait Pierre Giorgio ne peut plus bouger, qu'il est cloué au lit et qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Il s'éteint le samedi suivant, donc 3 jours après l'enterrement de sa grand-mère. C'est au moment de son enterrement que va tout d'un coup éclater la charité de Pierre Giorgio par le nombre de pauvres des faubourgs de Turin qui viennent, et puis tout d'un coup les contacts se font et on découvre en fait ces Fioretti multiples qui viennent comme compléter les lettres dont je vous ai parlé et qui sont témoins de la charité de Pierre Giorgio. Il forme un nouveau modèle de sainteté, il ouvre une nouvelle voie, et c'est Jean-Paul II qui le présentera aussi comme modèle de la jeunesse, pour la jeunesse. Voilà, on pourrait finalement résumer sa vie par ces phrases-là que j'emprunte. Pur dans un monde contaminé par les vices, juste dans un monde où triomphe l'injustice, doux dans un monde où règne un esprit de violence, généreux dans un monde où domine la cupidité, rempli de bonté et d'amour dans un monde déchiré par les égoïsmes et les haines, fort de caractère, dans un monde où les consciences se plient facilement aux grandes et petites bassesses, riche de joie et d'allégresse, dans un monde qui, dans la recherche effrénée des plaisirs, a perdu le sens de la vraie joie. Jean-Paul II en parlera donc comme l'homme des 8 béatitudes et le présentera donc comme saint patron des sportifs et puis comme modèle pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et il était présent encore cet été. Son corps a été transporté à Cracovie, au couvent des frères, où il a été vénéré donc, pendant les Journées mondiales de la jeunesse. Et ça fait d'ailleurs plusieurs Journées mondiales que son corps est déplacé comme ça pour être proposé à la vénération, parce que je crois qu'il reste donc un modèle effectivement de sainteté pour aujourd'hui, extrêmement vivant, et pour les jeunes. Nous ne devons jamais vivoter, mais vivre, dira Pierre Giorgio. Et pour terminer, je vous propose de le prendre comme compagnon de route en reprenant une de ses phrases. Voilà ce qu'il disait à un ami et qu'il nous dit. Vous verrez, à nous deux, nous ferons de grandes choses. Verso l'alto. Merci.
Merci, frère Charles, pour ce qui est un peu comme